Causerie on air. Avec Catherine Laurence, Philippe Reltien, Alain Le Bouguet et Jean-Marc Prince.
Bonsoir, nous sommes ce soir avec trois anciens de Radio Andorre, enfin deux anciens et demi parce qu'il y en a un qui n'était pas tout à fait à Radio Andorre. C'était Catherine Laurence que vous avez sur votre gauche. Il y avait Philippe Reltien qui était aussi à Radio Andorre et puis le conjoint de Catherine Laurence qui était pas loin de Radio Andorre puisqu'il était dans la même rue, pratiquement en face à la Dépêche du Midi. Mais tous les trois ont eu quand même l'occasion de travailler avec d'autres dirigeants de Radio Andorre dans leur carrière professionnelle. Donc déjà, je vous dis bonsoir à tous les trois. Vous êtes donc réunis à Paris, c'est bien ça?
Oui, ouais. En effet.
Voilà. Et vous habitez tous les trois Paris?
Tous les trois, tous les dans le 15e. Tout près.
Bon, donc depuis Radio Andorre, vous ne vous êtes jamais quitté de vue, si j'ai bien compris.
Quasiment.
Mais c'est vrai parce que nos carrières ont été parallèles, en fait.
Oui, vous avez eu des carrières surtout à Radio France, je crois, si je ne me trompe pas, yes. Et les uns et les autres. Ça, c'est un point commun entre vous trois. C'est une longue carrière à Radio France.
Philippe s'est éloigné un peu de temps en temps puisqu'il a travaillé à Madrid pour Radio France, il a travaillé à Washington, il a travaillé à Pékin, et donc on ne pouvait pas le voir à ce moment-là, évidemment.
On se parlait beaucoup parce qu'on travaillait ensemble.
Oui, parce que chacun a un poste et un rôle différent, donc c'est ça qui est intéressant et qui explique pourquoi on a de la joie à se réunir ensemble parce qu'on n'a rien à se reprocher.
C'est vrai.
Oui, il n'y a pas eu de relation hiérarchique entre vous non plus. Il n'y a pas un qui était
un peu, mais pas vraiment quoi. En tout cas, pas de cas dans le placard. Non,
mais c'est surtout qu'on se connaît depuis tellement longtemps. Comment voulez-vous qu'il y ait des cadavres alors qu'on se connaît depuis toujours?
Alors, vous vous connaissez depuis quelle année? Racontez-moi tout.
78.
Voilà. 78.
J'étais enceinte de mon fils. Je travaillais à Radio Andorre. Et Gilles Marquet, le directeur de la radio, m'a demandé de trouver celui qui pourrait me remplacer pendant mon congé de maternité. Et par un ami commun, j'ai présenté Philippe à Gilles Marquet. Et c'est comme ça que Philippe est arrivé à Toulouse pour me remplacer pendant mon absence.
D'accord. Mais tu venais de quelle région, Catherine, alors ?
Moi, je venais du sud-ouest, je venais de Toulouse. Mes parents, j'ai eu mon bac à Montauban.
Et ah
donc,
oui,
je
d'accord.
Suis quand même de cette région-là depuis toujours.
Mais par contre, tu n'as pas fait d'école de journalisme à Toulouse?
Non, parce qu'il n'y en avait pas à l'époque.
Ah, il n'y en avait pas. Donc la plus proche, c'était Tours?
Oui, il y avait Bordeaux aussi, il y avait l'UT de Bordeaux.
Ouais.
Et l'UT de Tours.
C'était la cinquième école reconnue par la profession.
Voilà. Il y avait Paris, bien sûr, mais mes parents, ils ne voulaient pas me lâcher après mon bac, toute fragile, en venant de Montauban, Tarn-et-Garonne. Ils ne voulaient pas que je me retrouve à Paris. Bordeaux, moi, je trouve que c'était un peu près d'eux. J'avais envie de vivre ma vie un peu. Donc, Tours, c'était une bonne solution. Voilà.
Très bien. Alors, qui était à Tours aussi?
Moi. Et nous nous sommes rencontrés à Tours tous les deux.
Ah oui. Donc, pour le meilleur et pour le pire, si j'ai bien compris.
Surtout pour le meilleur.
Ça fait 51 ans que nous sommes ensemble. Ouais. Mariés depuis 49 ans, 50 ans.
Ça laisse rêveur. Hein.
Bientôt.
Voilà. Vous êtes mariés à l'époque de Radio Andorre, si je comprends.
Exactement.
Juste avant. En 76.
Il y en a eu des mariages à Radio Andorre, c'est incroyable.
Sûrement. Bon. On était très jeunes et c'était l'âge où on se rencontrait.
Et Philippe, lui, c'était pas Tours, Philippe. C'était le Grand Est.
Moi, c'était Strasbourg.
Ah ben voilà.
Mais c'était en 75 la sortie de...
Ouais.
L'été 75, la sortie de Strasbourg.
Et c'était une école de journalisme à Strasbourg aussi, alors?
Ah ouais. Oui.
C'est une école.
C'est le QEJ. Mmh. Et donc, on y apprenait toute l'austérité et la justesse du bon mot français et de l'histoire de France quand les Russes étaient à 500 km de la frontière.
Ouais. Ah bah oui, c'est vrai qu'à cette époque, ils n'étaient pas loin. Comme quoi, on rejoint toujours l'actualité à un moment donné. Hein.
Oui.
Ça nous perd pas. Et tu n'es pas originaire de Strasbourg, si je me souviens bien, tu étais Lorrain comme moi. Hein.
Ah, je suis né à Thionville, mais en fait,
Il est
j'ai
né à
grandi
Thionville.
en Franche-Comté. Voilà.
Ah
Donc,
oui, d'accord.
je
Bon.
prenais le train en blazer. Ma maman m'avait acheté un blazer pour que je puisse aller à l'université. Et oh, bon, j'ai connu, rencontré le monde. Et beaucoup de gens que j'ai revus ensuite à l'université. Et parmi eux, un garçon qui m'a beaucoup aidé, qui est
Oui.
Martin Kay, qui s'appelle Maurice Nagant,
Oui.
qui, dans la rue Saint-Lazare, m'a entendu, donc la radio c'est le son, c'est l'oreille,
Bien sûr.
m'a entendu vendre des cravates de luxe sur le trottoir en face du passage du Havre.
Oui.
Et c'était un des petits boulots que je faisais, que mon
Ouais.
père me permettait de faire. Et il m'a dit, mais écoute, au bout de la rue, il y a les studios Montmartre. Et là, il y a un type qui s'appelle Guy Noël qui
Oui.
essaye des voix. C'est comme ça
Oui,
que je
c'est
suis
un
venu.
grand de la radio, ça. Ouais.
Grand, je sais pas parce
Ah si,
que.
Guy Noël a fait une immense carrière avant-guerre déjà. Ouais.
Ah, peut-être.
Il était à Radio Cité. Il a... Si,
Bizarre.
si, c'est vraiment un grand de la radio.
Oui, non.
Et puis ensuite, il était dans les Caraïbes après. Ouais.
C'est ça. Donc, après, c'était un pirate des Caraïbes, quand même, Guy
C'est
Noël,
ça.
avec un œil de verre qui essuyait devant les gens
Oui, tout à fait. C'est vrai. Aperçu.
avec qui il discutait d'augmenter, surtout de ne pas augmenter les salaires. Bon, c'est. Mais. Voilà. Et il n'empêche, c'est grâce à lui et grâce à, je me souviens, on devait, c'était bien fait par l'entretien. L'essai, c'était sur une dépêche, c'était sur le tabac, la loi Veil, voilà. Et donc je devais écrire et parler. Et donc j'ai été,
Ouais, donc
donc
c'était pour une annonce, quoi. Hein. C'est quand
voilà.
même curieux, hein. Comme c'est lié à peu de choses, un devenir professionnel, vendre des cravates
Voilà.
sur un boulevard, et puis pouf, et pour Catherine faire un beau sourire au directeur de Radio Andorre, et puis voilà, on est embauché. Aujourd'hui, c'est quand même un peu plus compliqué, je crois.
Ça, c'est sûr. Ça l'est. Ouais.
Hein. Ouais. Bon, notre émission est aussi musicale, donc je vous ai demandé de faire la programmation musicale, ce que vous n'avez pas l'habitude de faire, parce que dans vos métiers de journaliste, on fait rarement de la programmation musicale, si je ne me trompe pas, donc c'est peut-être la première fois que vous faites une programmation musicale. On va commencer peut-être par Catherine, honneur aux dames. Catherine, tu as choisi comme premier disque un disque des Bee Gees, je crois.
Oui, parce que ça me rappelle cette année-là, ça devait être en 77, j'étais à Radio Andorre, et Gilles Marquet me dit, nous sommes invités ce soir dans la plus grande boîte de nuit de Toulouse parce qu'il y a un film qui s'appelle Saturday Night Fever qui
Ouais.
sort, qui va faire l'événement avec un type qui s'appelle John Travolta qui danse comme un fou sur la musique des Bee Gees, et c'était Saturday Night Fever.
Causerie on air. Avec Catherine Laurence, Philippe Reltien, Alain Le Bouguet et Jean-Marc Prince.
Alain, alors toi par contre, tu n'as jamais travaillé à Radio Andorre, sauf je crois, tu nous avais dit ça dans une petite émission que nous avions enregistrée pour Nouvel An, que tu avais fait juste un reportage, je crois, pour Radio Andorre, mais à part ça, ta première radio après Radio Andorre, c'était quoi alors finalement?
Ma première radio, c'était Radio Toulouse, puisque je travaillais à la Dépêche du Midi. Oui. La Dépêche du Midi avait récupéré au moins le titre de cette radio qui avait été la propriété de Jacques Trémoulet,
ouais.
Voilà, mm-hmm. qui était lui-même le patron historique de Radio Andorre. Et on demandait aux journalistes, qui étaient plus habitués à la plume qu'au micro, de venir en studio et présenter les infos. Ouais. Et un jour, mon tour est venu, je me suis retrouvé là, et il y a un moment où je me suis planté sur une brève qui concernait le Tour de France, et là, ça a été une horreur absolue. J'avais l'impression que ma chaîne avait sauté. Je faisais des grands gestes aux techniciens derrière pour qu'ils lancent quelque chose, mais ils me laissaient me dépatouiller avec la catastrophe. Et ça a été ma première vraie expérience radio.
C'est terrible. Moi, je l'écoutais à la maison. Oui. Et je m'enfonçais par terre. J'avais l'impression que j'allais passer à travers le parquet tellement j'étais mal pour lui. C'était terrible.
Ouais. Et sinon, j'avais juste fait un micro avec, je crois que c'était avec Jean Hédernalier, parce que Gilles Marquet me l'avait demandé, j'avais fait ça à titre gracieux. Ouais. Et ça, c'était pas difficile, hein, poser deux, trois questions en prenant le micro, en le tenant comme une sucette, c'était plus facile. Et donc, lorsque Gilles Marquet m'a proposé de quitter la presse pour la radio, de façon à créer Radio Côte d'Azur à Nice, une des radios locales de Radio France. Oui. J'étais un peu surpris quand même. Je savais qu'il voulait.
Il n'avait pas écouté.
Avec moi, ça me paraissait quand même un peu osé de sa part. Et finalement, il m'a fait confiance. Les débuts n'ont pas été si faciles que ça.
On apprend tous le métier. Quoi, hein. Ouais.
Et puis, je suppose que j'ai fini par m'y faire parce qu'après. France Inter m'a accepté un petit peu dans tous les compartiments du jeu radiophonique, donc j'ai dû apprendre, certainement.
Bah, vu la carrière radiophonique que tu as fait après, bon, je pense qu'effectivement, tu as été à la bonne école sur le terrain, quoi. Hein.
Voilà. Ouais.
Mais c'était Radio Andorre, c'était un peu ça aussi, hein. C'était une école de radio avant tout, parce que c'est souvent des gamins de 20 ans qui étaient embauchés, et puis qui faisaient leur premier pas devant un micro, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de radio libre encore, hein. C'est que dans les années 80 qu'elles sont apparues, quoi. Hein. Donc là, évidemment...
C'était très artisanal, c'était à la fois professionnel et artisanal.
Oui, c'est ça, ouais. Bah, c'est un bon côté, ça. Hein. Ah, c'est un bon côté parce qu'on est proche, en fait. Il y a un mélange de générations qui permet quand même aux anciens d'accueillir des petits jeunes et puis de leur apprendre le métier, ce qui se fait beaucoup moins aujourd'hui parce que les choses sont beaucoup, beaucoup plus compartimentées, quoi. Hein.
Ouais, et puis l'exigence est immédiate alors qu'à l'époque... Nos patrons, enfin Gilles Marquet en l'occurrence pour en ce qui me concerne, il était beaucoup plus conciliant. Les enjeux n'étaient pas les mêmes, donc même si je remettais pas mon reportage en temps et heure exactement,
il n'y avait pas mort d'homme.
Les enjeux n'étaient pas les mêmes.
Bien sûr.
Une grande radio nationale, c'est pas du tout le même enjeu. Évidemment.
Alors Gilles Marquet, on m'en parle souvent, donc là finalement c'est lui qui vous a quelque part réunis les uns et les autres, hein, si j'ai bien compris. Bon, il est malheureusement plus parmi nous aujourd'hui, mais j'en entends tellement parler encore tous les jours quand j'interroge les anciens de Radio Andorre. Moi, j'ai eu la chance de le rencontrer deux fois. Bon, j'ai jamais travaillé avec lui, je l'ai rencontré deux fois à Paris, mais loin, longtemps après Radio Andorre, hein, dans les années 90. Donc effectivement, j'ai vu un petit peu la personnalité de cet homme qui était d'un contact vraiment très agréable. Je pense qu'il devait être exigeant aussi peut-être dans le travail. Enfin, je sais pas comment vous le décririez, Gilles Marquet. Comment, quel souvenir vous en gardez d'un point de vue professionnel?
Moi, j'irais prudent, parce que moi j'étais la bleusaille quand j'arrive à Toulouse. Et donc, il a vraiment fait un pari sur un casse-cou qui aurait pu provoquer une catastrophe. Et donc, il a vraiment été prudent dans l'approche. C'est-à-dire qu'au lieu de me demander tout de suite de faire des choses difficiles, comme, je ne sais pas, par exemple, de l'improvisation au micro ou bien un commentaire de rugby, parce que le commentaire de rugby, quand tu es à Toulouse, c'est quand même un truc essentiel. Mais il a quand même réussi à à m'envoyer à Parme, en Italie, pour faire un commentaire. Donc, c'était vraiment un test grandeur nature qui faisait un commentaire en semi-direct d'un match de handball entre Toulouse et Parme. Et donc, c'est là qu'il pouvait juger, parce que, bon, j'étais quand même coincé, parce qu'il fallait que je sois en direct au téléphone sur le score, et je connaissais absolument rien au handball, ni aucun nom d'aucun joueur. T'imagines, au rugby, ça aurait été une cata, mais totale. Et donc, il était prudent. Et moi, j'ai trouvé que, au début, je trouvais que j'avais rien à faire, parce que je me faisais un peu bizuter par les gens qui étaient là, puisqu'il n'y avait pas de Catherine, il n'y avait pas d'Alain, il n'y avait pas de Christian Guiard, il y avait juste seulement Jean-Jacques de Bézy avec ses bretelles et sa chemise rose toujours impeccable, et puis Marseille, Robert Marseille à
Robert
la technique,
Marseille,
Robert Marseille à la technique, et en fait, j'ai au début plutôt explorer les bistrots de la rue Bayard,
Oui, il paraît que Robert Marseille aimait bien prendre l'apéro, quoi.
plusieurs fois par jour.
Moi, j'ai pas du tout connu ça. Hein. Moi, j'étais
Ah
une
bon?
jeune femme sérieuse, je travaillais.
Oh, c'est vrai?
J'allais pas boire les pots avec les garçons.
À l'époque, oui, c'était réservé aux hommes, l'apéro. Hein. Heureusement, les temps ont changé.
Et petit à petit, il a compris que ça y est, je pouvais travailler comme Catherine, et il m'a remis les clés de la Simca 1100.
Ah,
Donc,
ma voiture.
oui, parce qu'il m'a on m'a toujours précisé, attention, c'est la voiture de Catherine.
Ah bah
Et
oui, il
la
n'y en avait pas
raison, ils
beaucoup.
avaient tous raison de préciser, c'est la voiture de Catherine. Bon, c'est le scooter d'Alain, on racontera plus tard. Mais ils avaient raison.
C'est
Et donc petit à petit, les reportages sont faits localement, mais bon, pas d'un intérêt géant. Et puis sont arrivés plus tard, 1779, on en reparlera sûrement, du contexte. On est en mai 1979 dans les élections européennes, et là, Gilles Marquet fait preuve de, oui, de flair. Il se dit, les temps changent. Et
Oui.
c'est vrai, les temps allaient changer.
Oui.
Giscard allait venir à Mazamet et parler d'Airbus, du Grand Sud-Ouest, etc. Et il s'est mis à me demander à aller à Paris à faire des personnalités. Et là, moi, je n'aurais jamais fait ce qu'il a fait, parce que je suis allé rencontrer Edgar Faure, qui venait de sortir un bouquin, qui
Oui.
sortait de l'Assemblée
Il
nationale.
était président, oui, de l'Assemblée nationale à
Voilà.
l'époque.
Et il devenait académicien, c'était fini.
Oui.
Je l'avoue aujourd'hui, j'ai honte, mais j'ai pas lu de bouquin. Donc je suis allé rencontrer Edgar Faure, voilà,
Oui.
comme d'ailleurs plutôt Aimé Césaire de 6 ans plus
Oui.
tôt à Fort-de-France,
Oui.
sans avoir lu du Edgar Faure ou sans avoir lu du Aimé Césaire. Il n'y avait pas de Wikipédia à l'époque.
Oui, bah
Voilà.
oui, c'est évident.
Voilà. Donc la catastrophe aurait pu arriver, elle n'est pas arrivée.
Bon,
Mais
aujourd'hui, les
c'était
gens ne lisent pas plus les livres, hein.
un.
Ils ont Wikipédia, c'est vrai, ça c'est
C'était
vraiment.
un homme qui faisait confiance aux gens, qui les rassurait, qui les stimulait, on n'avait pas envie de le décevoir. Donc, même si on était inexpérimenté, on faisait le maximum pour amener des
Pour le
choses
satisfaire,
formidables. Et d'autant plus qu'on avait de la chance parce qu'on était à Toulouse, il se passait quand même des gens, les gens passaient à Toulouse quand même, des gens importants.
bien sûr.
Et comme il y avait très peu de radio, bah forcément, on était
Bah
au
oui.
premier rang quand même, on
Bah
pouvait
oui, il
avoir
y
toutes les
avait Sud
infos
Radio et
d'un
Radio
coup, on
Andorre,
voulait.
quoi. Hein.
Comme ça, moi, à 22, 3 ans, je faisais Jacques Chirac, comme je te pousse. Enfin, c'était Giscard dans le Grand Sud-Ouest que j'ai suivi pendant tout son voyage. Enfin, c'était improbable, hein. C'était incroyable.
C'est un homme qui sentait quand même bien son époque, parce que Philippe parlait des élections européennes. Il sentait bien l'Europe. Je pense qu'il était profondément européen déjà. Et il avait bien senti autre chose, c'est l'écologie, la protection de l'environnement, puisqu'il avait créé une émission dont il avait confié la direction à Catherine.
Qui s'appelait
Oui.
Radio Verte. Vous vous
Radio
rendez compte?
verte.
Ça, c'était au moment où Golfech allait ouvrir. Et il y avait
Oui.
des tas de manifestations à
Bien
l'époque
sûr.
assez
Oui.
violentes
La centrale nucléaire.
contre la centrale nucléaire de Golfech. Et donc, moi, je passais mes week-ends à aller couvrir les manifs contre Golfech avec les gaz lacrymo que je me prenais dans les figu la figure. Je m'entendais au fond des fossés. Enfin, c'était déjà presque du grand reportage. Hein. On faisait
Oui,
presque le
du
c'était du
reportage.
reportage.
Oui.
Voilà. Et il y avait aussi le Larzac avec les grandes
Oui.
manifs de Lanza del Basto. Ben, il se passait
Oui,
des tas
contre
de
le camp
choses.
militaire, quoi.
Ouais, exactement. Ben, voilà. Donc,
Mais je
il
peux dire,
manquait
parce que
des
j'ai fait un
choses,
peu de
etc.
recherche là-dessus, bon, en dehors des radios, des petites radios libres, je dirais écologistes, sur les ondes des radios périphériques et même du service public, je crois que cette émission Radio Earth a probablement été, à ma connaissance, la première émission vraiment consacrée à l'écologie
Ça ne m'étonne
sur
pas
les
parce
radios
que c'était
périphériques.
très tôt, hein. On faisait ça, c'était en 78, quelque chose comme ça, 79, quelque
Oui,
chose
c'est
comme ça.
ça,
Très
oui.
tôt.
Avec sa SIM-card,
Voilà, avec
voilà.
ma SIM 1100. Il y avait écrit Radio Andorre en énorme sur la portière, sur les
Qui
portières.
a transporté qui?
Plein de gens, bah, tout le
Entre
monde.
autres
Alors,
célébrités.
oh ben, Charles Aznavour, Cérone, Sylvie Vartan,
Ah ben
enfin plein
voilà.
de
Johnny,
gens.
Johnny.
Ah non, Johnny n'est pas là, non. Non, non. Non, mais enfin, des tas de Patrick Hernandez, Born to
Ah,
be Alive.
Born to
J'allais les
be
chercher à l'aéroport et je les ramenais au studio.
alive. Bon, on va continuer notre petite conversation, mais on va quand même passer un petit peu de musique. Donc, le deuxième disque de cette émission, c'est Balavoine. Alors, qui a choisi Balavoine? C'est Alain, je crois, hein?
Oui, c'est moi qui ai choisi Balavoine parce que justement, moi qui ne travaillais pas à Radio Andorre, j'étais associé à cette radio par mon épouse. Et il arrivait à Radio Andorre de présenter des émissions en direct de la Foire Expo de Toulouse. Chaque année, Radio Andorre plantait
Son
son
studio
studio
à
au
la
milieu des
Foire
machines à
Expo
laver et des lave-linges et des lave-vaisselle
pour faire de la promo.
pour faire de la promo. Et donc, invitait un artiste du moment. Et on a fait la connaissance à l'époque
De
de
Daniel
Daniel Balavoine. Et
Balavoine.
c'était un moment très
Ah,
sympa.
il était adorable,
Il
Daniel.
était adorable et on a gardé un excellent souvenir
Il
de
revenait
cette.
souvent, là, plusieurs
Ouais, on
fois.
l'a vu plusieurs fois et on était très tristes le jour où on a
Ouais.
appris, quand on était à Nice d'ailleurs, après,
Sa mort.
quand on a appris sa mort, voilà.
Ah oui, bien
Donc,
sûr.
j'ai choisi le chanteur puisque c'était
Ah ben oui.
la
Le
chanson
tube du
titre de
moment.
l'époque.
Donc, le chanteur, Balavoine.
Qu'elle m'admire, qu'elle me tue, qu'elle s'arrache.
Quand vous êtes arrivé à Radio Andorre, en fait, la rédaction était toute récente, hein, elle venait d'être créée parce que la radio, pendant plus de presque 40 ans, elle n'avait jamais diffusé d'infos. Donc, elle en a diffusé seulement à partir de l'année 75-76, grosso modo. Donc, je suppose que la rédaction était embryonnaire, quoi, hein. Donc, en Andorre, il y avait quelques journalistes, mais vous aviez peu de contact avec eux, en fait, parce que vous étiez en reportage. Mais à Toulouse, on avait des reporters déjà. Vous avez évoqué tout à l'heure Marsay, vous avez évoqué Debézy, vous avez rencontré d'autres, il y avait d'autres journalistes ou reporters dont vous avez le souvenir sur Toulouse, non?
Ah, non, il n'y en avait
Non.
pas. C'était nous. On était
Oui.
là. Nous, on était à Toulouse pour faire les reportages.
Oui.
Et les journalistes qui pouvaient être en Andorre, ils présentaient les flashs et les journaux. C'était
Oui,
nous,
c'est
on ne
ça.
faisait. Moi, je ne présentais pas de journal. On faisait que des reportages. Je me souviens.
Il y avait d'autres reporters, mais qui n'étaient pas basés à Toulouse. Hein. Il y en avait à Pau, il y en avait à Albi,
Je
mais
ne l'ai
sur
pas
Toulouse,
connu,
oui.
moi.
En fait, il y avait juste ces deux historiques de Radio Andorre qui étaient là depuis très longtemps. Et comment ça s'est
Oui.
passé quand vous êtes arrivé avec cette équipe, ces
Avec
reporters
Robert
en place?
Marsay, Jean-Jacques Debézy, vous voulez dire?
Oui, par exemple,
Oh, ils
oui.
m'ont visité, hein, ils m'ont visité. Moi, j'avais
Ah,
22 ans, chose comme
une
ça.
femme déjà.
J'arrivais, une femme. Moi,
Ah, ben
je
oui.
buvais pas de babies, comme ils disaient, là, les petits whisky, les babies. Je buvais pas de babies, mais bon, ils m'ont bien accepté. C'était
Bon.
sympa. Pourtant, c'était un peu un choc quand même générationnel, hein, on peut le dire. Parce que moi, je sortais d'une école quand même. Eux, ils n'avaient
Oui,
jamais fait école de
t'avais quoi?
l'offre.
T'avais une vingtaine d'années à l'époque, quoi, c'est ça?
Pardon?
T'avais une vingtaine d'années à
Moi,
l'époque.
j'avais 22,
22.
22 ans. J'avais 22 ans.
Oui.
Donc, je sortais toute fraîche de mon école. J'avais des principes, une déontologie. Je voulais faire de l'actu. Ben, eux, ce n'était pas vraiment ce qui les animait. Eux, ils connaissaient les gens. Ils voulaient interviewer les gens qu'ils connaissaient. En gros, si je ne veux pas être mauvaise langue. Mais
Oui.
effectivement, je pense que si Gilles m'avait choisi, c'était pour mettre un peu de fraîcheur et de professionnalisme là-dedans, je crois.
Très bien.
En toute modestie.
Non, mais c'est juste.
Et Philippe, pareil.
Donc, en fait, c'était surtout du reportage régional, mais bon, tu faisais allusion tout à l'heure à Jacques Chirac. Donc, je suppose que quand les politiques passaient,
Ben oui.
ils passaient devant ton micro aussi.
Ah oui. Et puis
Oui.
Gilles, il m'a envoyé faire le Grand Sud-Ouest avec Giscard.
Oui.
Il m'a envoyé à Paris aussi faire. On avait fait toute une série. Il était quand même vraiment visionnaire, cet homme. Il m'avait fait faire toute une série de femmes ministres. Parce que Giscard avait pris pas mal de femmes ministres.
Oui.
Et il m'avait fait faire toute une série de portraits de femmes ministres qui prenaient des responsabilités. C'était formidable. Je passais
Ouais.
ma vie à Paris avec Françoise Giroud, avec
Ah, toi aussi, tu l'as vu?
Pourquoi toi
Ah,
aussi
moi
tu
aussi,
avais?
je suis retourné la faire, oui.
Ah ben voilà,
Donc, moi,
quand
j'ai
tu
fait
as la
Annecy contre
force.
Gilles Marquet.
Ah bah, il a choisi
Force
la
sur
meilleure bande
Stéphane
des
Arthur,
deux.
enfin, il y en avait quelques-unes comme ça, je les ai un peu oubliées, mais il avait vraiment le sens de ce qui allait se passer après, les femmes, les sujets féminins.
Et puis son attachement à ses collaborateurs, tu parlais de Chirac, tout à l'heure c'était à Biarritz. Chirac, il s'était passé quelque chose.
Alors on part à Biarritz parce que
Oui.
Chirac, c'était les assises, ah je me souviens, c'était les assises du parti, alors je ne sais plus si c'était le
Du
RPR
RPR
ou ça
peut-être,
devait être le RPR à cette
oui, c'était le
période-là.
RPR à l'époque, je crois, oui.
Voilà, les assises du RPR. Et on était invités, la radio était invitée par le maire de Biarritz,
Oui,
qui
Monsieur
s'appelait
Marie.
Marie. C'était le père d'Alliot-Marie, d'ailleurs, de
C'est
Michel
ça.
Alliot-Marie. Et donc, on va couvrir l'événement. Donc, je fais mon interview de Chirac, etc. Et puis, le soir, on devait aller dans une grande soirée assez mondaine. Sauf que Gilles s'est rendu compte qu'il était le seul à être invité. Et que nous, on était la piétaille et qu'on n'avait pas à être là.
Ah oui.
Et le technicien, il y avait un technicien et moi, on était trois, on n'était pas des grosses équipes. Hein. Et Gilles, quand il a vu qu'on n'était pas invité, ben, il n'est pas allé. Et il nous a invités au restaurant à Biarritz, on est allé manger des
Ah, ben
fruits de
voilà.
mer, tous les trois, et on est rentré à Toulouse le lendemain.
Ben
Ça,
oui, ben
c'est.
ça dit tout
Il
du
n'y a pas
personnage.
beaucoup de patrons qui font ça. Hein.
Non, justement, oui. C'était René Hervé qui était reporter
Oui,
à Biarritz.
exactement, c'est lui qui
C'est
prenait le
ça?
son.
C'est lui qui faisait le son.
Exactement.
Oh, il faisait tout, cet homme-là.
Ouais.
Il
Voilà.
était journaliste, animateur, il animait les podiums aussi. Enfin bon, il en a fait beaucoup. Hein. Radio Andorre, c'était l'homme à tout faire, je crois. Ouais. Bon, eh bien, super, on va passer un disque d'Henri Salvador. C'est Philippe qui a choisi, je crois, Henri Salvador.
Oui, moi j'ai choisi
Ouais.
ça. Tout à l'heure, on a parlé du reggae. Là, on va parler d'un Guyanais qui travaille avec Biolay et qui
Ouais.
va mourir place Vendôme, parce que c'est quand même là qu'il habitait, à Paris. Et donc, Jardin d'hiver, ben, j'aime bien parce qu'on est en hiver et que ça fait vraiment penser aux cocotiers, aux plages, aux Antilles, enfin, ce que vous voudrez, mais un endroit plutôt ensoleillé
Oui.
et où on peut se mettre sur le sable en écoutant. C'est une très très belle chanson. C'est une chanson avec Karen.
Anne, Karen.
Karen.
Ouais. Et c'est
C'est.
Violet aussi qui l'y a écrit, je crois.
Oui,
Enfin,
Violet, Karen.
ouais, c'est ça.
Et c'est une
C'était
très
son
très.
dernier disque, je crois, Salvador, finalement.
Oh oui,
Oui, ça s'appelle
vraisemblablement, oui.
Chambre avec vue. Oui,
Ouais,
c'est ça.
vraisemblablement. Il a été super bien vendu en plus, hein, ce disque. Hein,
Il a eu beaucoup de succès.
c'était vraiment un retour inattendu de cet artiste, quoi. Ouais. Bon, eh ben, on l'écoute.
Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières, des photos de bord de mer dans mon jardin d'hiver. Je voudrais de la lumière comme en Nouvelle-Angleterre. Je veux changer d'atmosphère dans mon jardin d'hiver. Ta robe à fleurs sous la pluie de novembre, mes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, qu'il est loin l'âge tendre. Nul ne peut nous entendre. Je voudrais du Fred Astaire, revoir un latte cohère. Je voudrais toujours te plaire dans mon jardin d'hiver. Je veux déjeuner par terre comme au long des golfes clairs, embrasser les yeux ouverts dans mon jardin d'hiver. Ta robe à fleurs sous la pluie de novembre, mes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, qu'il est loin l'âge tendre, nul ne peut nous entendre.
Bon, c'était donc Henri Salvador dans son dernier disque. Et maintenant, on revient donc à Toulouse, puisque c'est là que vous aviez votre bureau. C'était même pas vraiment un studio, c'était vraiment un bureau. On peut pas qualifier ça de studio de radio,
Ah
le
si, quand
bureau
même,
de
parce
Toulouse
qu'on
de
faisait
Radio Vendôme.
Radio Verte. Si, si, il y
Comment?
avait quand même une petite régie.
Il y avait une
Et on
petite
faisait
régie, ouais.
une heure d'émission, Radio Verte était réalisée rue Bayard.
Ah, elle était réalisée rue Bayard.
Ah
Ah, ben ça, je
oui.
l'ignorais.
On avait
Ouais.
nos
Ah, oui, bah oui,
invités, on
forcément.
avait nos micros, on avait notre petite régie.
C'était
Toi, tu n'es jamais
nouveau
allé
par
en
rapport.
Andorre, Catherine?
Bon, je suis allée, mais très peu.
Très peu.
Effectivement, je suis allée voir la grande maison, mais je n'y ai jamais travaillé. J'y ai passé une soirée et puis je suis repartie le lendemain. Je connais pas.
Et Jean-Marc, c'était nouveau, ça, le studio, par rapport au travail d'avant, où on copiait de Nagra sur
C'était pas des Nagra, c'était des
les
UR.
Ailleurs.
Oui,
On
ils
copiait
n'avaient pas
de
les
la
moyens
bande
pour s'acheter des
magnétique,
Nagra.
on copiait de
On
la
n'avait
bande
pas les moyens.
magnétique
Ouais.
sur des cassettes pour pouvoir les mettre dans une enveloppe et la déposer dans la boîte aux lettres de Radio Andorre,
De
t'imagines?
la dépêche du
De la dépêche
midi.
du midi,
Ouais,
pardon,
c'est comme ça que ça
et
se
qui
passait.
envoyait ses camions, etc. Non, mais
C'était très artisanal.
C'est l'époque
ah oui.
Très artisanal.
Antédiluvienne, c'est un
Oui,
truc.
ça paraît invraisemblable
Puis alors,
aujourd'hui.
quand il y avait de la neige en Andorre ou quand il y avait les douaniers
Oui.
qui faisaient du zèle, c'était pas évident de faire parvenir les cassettes, quoi.
Exactement.
Et moi, je m'interroge un petit peu sur les relations avec la Dépêche du Midi. Parce que, bon, il y a une relation historique, parce que Trémoulet était très proche de la famille Baillet, qui dirigeait ce quotidien régional. Bon, tout le monde sait que les frères Baillet avaient une position politique des radicaux de gauche de Toulouse. Et puis, il y avait aussi des contrats de collaboration entre le journal et la radio pour des interviews communes, pour un certain nombre d'émissions, notamment les émissions à Canet-Plage qui étaient faites avec La Dépêche et avec Radio Andorre. Alors moi, la question que je vous pose, j'ai une petite indication sur la réponse que vous allez me faire, mais j'aimerais quand même l'entendre de votre bouche. Est-ce qu'il y avait une interférence, on va dire, politique, sachant l'orientation politique du journal La Dépêche? Et l'information sur Radio Andorre, est-ce qu'on peut dire que l'information à Radio Andorre avait une connotation politique et laquelle?
Moi, je ne l'ai jamais ressenti. Je n'ai jamais senti ça et Gilles ne m'a jamais demandé d'interviewer un personnage en particulier. Je n'ai jamais senti de tendance politique.
Et pourtant, il t'est arrivé d'animer des émissions électorales
Ah oui, de la Dépêche du Midi d'ailleurs, parce
beaucoup
que nous, nous n'avions pas,
de
évidemment, parce que nous n'avions pas, nous, les moyens de recevoir les résultats aussi vite que ceux de la Dépêche. Donc, on a installé notre table et nos micros. Notre petit studio dans le grand hall la magnifique de la rue Bayard de la Dépêche du Midi. Et comme ça, on profitait des infos que la Dépêche obtenait pour retransmettre nos soirées électorales. On recevait les gens qui passaient à la Dépêche, les politiques de locaux,
Donc, il y
mais
avait un
je n'ai
équilibre entre les
jamais,
candidats, j'imagine, qui était obligatoire, quoi.
absolument, mais je n'ai jamais senti la moindre pression. Pour une info politique sur Radio Andorre. Moi, je ne l'ai jamais.
Alors qu'à la Dépêche du Midi, c'était quand même très sensible, puisque moi, j'ai travaillé pour les pages politiques de la Dépêche du Midi pendant un certain temps, et au moment du programme commun entre les deux tours des élections législatives de 1978,
Où il y avait donc les radicaux, les socialistes et les communistes, hein, c'est ça?
voilà, je faisais la une du journal, je la concevais, et je devais mettre à la une du journal les portraits de Mitterrand, de Marchais et de Fabre. Et Mitterrand pour le Parti socialiste, Marchais pour le Parti communiste, et Robert Fabre, qui était le régional
Président
de
du Parti
l'État, donc
radical
pour le
gauche.
Parti radical de gauche, qui était le champion de la Dépêche du Midi. Et à un moment, un journaliste un peu zélé, on va dire ça comme ça, pour pas être vilain, est passé derrière moi, et moi j'étais un tout jeune journaliste, et il s'est penché, et il m'a dit, il y a un problème là. Je dis, quel est le problème? Il dit, il y a un problème de micro. C'est les photos qui avaient été prises au cours de conférences de presse. Et Mitterrand et Marchais parlaient devant un micro LEM, donc un micro de la taille d'un poing, et Robert Fabre devant un microfil. Et il me dit, la patronne ne va pas aimer ça, que tu laisses une photo avec Robert Fabre, qui est l'ami du journal, devant un petit micro alors que les autres en ont un gros, c'est pas possible. Et moi, je l'envoie paître, pardon, en étant poli, et il fallait pas me chercher. Et il revient avec le rédacteur en chef, qui se penche, qui me dit, alors c'est quoi ce problème de micro? Je dis, il n'y a pas de problème de micro. Il me dit, si, 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 si. Il a raison, allez donc aux archives avec une paire de ciseaux, vous allez détourner un gros micro, il suffit de le coller sur la photo de Robert Fabre,
Ah bah
et
voilà.
vite, ce sera fini. J'ai refusé, j'ai cru que j'allais être viré le lendemain, j'ai pas
Ah
été viré.
carrément. Ouais.
Et le journaliste zélé est allé aux archives détourner le micro, et je me suis syndiqué le lendemain de ce jour-là. Voilà. C'est ça l'histoire. Voilà.
Ah
C'est
bah
vite,
dis donc.
c'est
Ah ouais,
intéressant.
c'est amusant ça comme anecdote. Ouais.
Intéressant. Alors, sur la question politique,
On risque d'être coupé d'une seconde à l'autre, hein.
c'est censure comme d'hab. Pas de complotisme. Simplement, en mai 79, il y a ces élections européennes. En 1978, il y a
Législative.
les législatives. Gilles Marquet se dit, il se passe quelque chose. Il mise sur l'Europe. Il se sent bien avec Jean Picolec qui est en train de créer sa maison d'édition. D'ailleurs, ils sont en manche avec Jean Édernalier et ils veulent fonder un truc qui s'appelle la Région Europe.
Oui,
Je
je
crois
me
que tu as
souviens
remarqué
vaguement de
ça.
ce truc-là.
Je crois qu'il a remarqué ça. Et c'est là où je vais à Paris interviewer, je ne sais plus qui, c'est peut-être Jean Edern ou un autre, je ne sais pas qui. Je dis Jean Edern comme si c'était mon pote, mais ça se passe comme ça à la causerie. Hein, voilà. Et il m'envoie rencontrer Edgar Faure et aussi Jacques Mitterrand. Ce qui était intéressant, c'est le frère de Mitterrand et le patron de l'aérospatiale, donc le Grand Sud-Ouest, et peut-être qu'il sentait que ça allait venir. Moi, j'étais plus là. C'était la carte, c'était le travail de Catherine, mais je pense qu'il sentait que politiquement ça allait changer. Bon, bah, ça allait changer en 80, hein,
Bah oui.
du retard. Bon, voilà. Mais ce n'était pas du tout de gauche. C'est ça que je veux dire. C'était,
D'accord.
Radio Andorre, c'est pas le tapis, le tapis
Non,
rose.
sans
C'est pas
étiquette,
le
quoi.
tapis rose. Dans la ville rose, c'est pas le tapis
Moi,
rose.
j'ai toujours senti que c'était un homme, je me rappelle, qui avait probablement, c'était probablement un vrai centriste. C'est-à-dire que, il était capable de tout écouter, et j'ai jamais senti, centriste penchant quand même à droite, centriste penchant à gauche. Suivant les sujets, on pouvait le sentir un peu plus attiré par la gauche ou un peu plus attiré par la droite, mais à peine. C'était un vrai centriste, je
Ah, c'est
crois.
au milieu qu'on est le plus proche des deux extrêmes, hein, finalement.
L'extrême centre.
L'extrême centre.
L'extrême centre, oui.
Causerie en air. Avec Catherine Laurence, Philippe Reltien, Alain Le Bouguet et Jean-Marc Prince.
Maintenant, c'est Catherine qui a choisi un disque. C'est un disque d'Herbert Léonard. Tu nous en dis deux mots, Catherine?
Nous avons eu la chance d'avoir Herbert Léonard dans nos studios à Toulouse. Et il était avec Alain Tibola. Et il lui disait, je m'en souviens très très bien, si cette chanson ne marche pas, j'arrête. Et ça a été un succès fou. Cet homme était assez désespéré ce jour-là, je me souviens très bien. Il se prenait la main dans la tête la tête dans les mains, comme ça. Et il disait, là, je peux plus, j'en peux plus, je suis désespéré. Si ce titre-là ne marche pas, j'arrête tout. Et ça a
D'accord.
été ce succès énorme
Et
que
le
nous
titre,
avons pas
c'était?
encore.
Le titre?
C'était
Pour le
pour
plaisir.
le
Ah bah oui,
plaisir.
pour le plaisir.
Pour le plaisir.
Philippe, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur ton parcours après Radio Andorre, parce que je crois que parmi vous trois, c'est s'il y en a un qui a fait plusieurs fois le tour de la Terre, c'est peut-être toi.
Le pigeon voyageur.
Quelles ont été tes missions et tes... Donc, vous avez les trois travaillé en fait sur le service public après, donc aussi bien à France Info qu'au service différents services de Radio France, à France Inter et à RFI, je crois aussi, hein, me
Oui,
semble-t-il.
pour moi, oui. Mais moi
Oui,
aussi, moi
pour Alain,
aussi.
voilà.
Moi aussi.
Voilà.
Moi
Donc
aussi.
Philippe, toi, est-ce que tu as gardé de tes voyages et de tes rencontres, je dirais dans ta longue carrière de reporter à l'international, est-ce que tu as gardé, je sais pas, un, deux souvenirs marquants qui t'ont vraiment, on peut dire, marqué?
Oui, bien sûr. Je fais rapidement l'itinéraire. C'est Radio Andorre, RFI comme pigiste, Radio Fréquence Nord, l'une des premières décentralisées de
C'est
Radio
ça?
France, Radio France Côte d'Azur à Nice,
Avec Gilles
France
Marquet.
Inter, et puis France Inter, puis Radio France, parce que une fois correspondant, donc à partir de 1987 à Madrid. C'est Yvan Levaille qui m'a envoyé là-bas. J'ai été recruté par Farkas chez les reporters à France Inter. Avec moi, il y avait Philippe Chaffanjon et Jacques Expert. Donc, une fois à Madrid, Yvan Levaille a décidé au bout de 3 ans de m'envoyer, alors que j'avais appris l'espagnol et pas un mot d'anglais, à Washington, où je suis resté 10 ans et demi,
Ah
à la
oui,
suite de Jean-Luc Hesse qui est devenu patron
de France Inter,
de France Inter.
ouais.
Aider, assister d'Alain Le Goubec, qui t'en dira plus long, sur l'élément marquant. L'élément marquant, il est marquant pour le monde entier, c'est le 11 septembre à New
Ah bah
York.
oui, ah
Et
bah
c'est
oui,
ce qui s'est
évidemment.
appelé 9-11. Et donc, c'est un événement marquant parce que pour nous qui étions à Paris, il fallait entrer dans l'espace aérien fermé des États-Unis. Il a fallu, et Alain en sait beaucoup plus que moi, je ne lui ai jamais demandé, et j'en profite maintenant de poser
Ouais,
cette
allez-y,
question,
oui.
ce qui s'est passé dans la panique à France Inter, qui a fait, bon, moi, j'ai pas, je vous raconterai après si vous voulez, mais à ce moment-là, il a fallu se décider, savoir comment on allait couvrir ça de près. Et bon, c'est intéressant parce que c'est ça, il y a un étage où on pense la logistique, etc., etc. Puis il y a un étage où on pense à rien jusqu'à ce qu'on
On
soit
est
dans le fait
sur terre.
accompli. Alors je vais raconter, j'étais secrétaire général de la rédaction de France Inter, donc
Oui.
je co-dirigeais la rédaction de France Inter et j'avais la responsabilité de trouver des solutions, justement. Et la solution que j'ai trouvée, puisque l'espace aérien sur l'Atlantique Nord était clos, j'ai appelé le Bourget, j'ai appelé des sociétés privées pour savoir s'il y avait un avion à louer. Et j'ai trouvé d'abord un Airbus dans un premier
Ouais.
temps. Et lorsque ça s'est su dans Paris, dans les rédactions, j'étais assailli de coups de fil de toutes les
Ah bah
rédactions, je me
oui.
souviens, le Parisien, les rédactions de France Télévisions, M6, etc., de gens qui me demandaient si j'avais des places à louer.
Ah oui.
Et je me suis mis à louer des places d'avion. C'est
Dans
absolument.
l'Airbus, dans le seul
Ah
Airbus,
oui.
c'est
Et même
particulier. T'aurais pu ouvrir une agence de voyage, là, hein.
un journaliste qui a eu une belle carrière,
Ouais.
qui était jeune journaliste au MOUV, qui était la radio jeune de Radio France,
Oui.
Grégory Philips, qui a plus tard dirigé la rédaction de France Info,
Oui.
m'appelle et me dit est-ce que vous avez encore des places toutes timides, etc. Je dis non, c'est plein. Et il me supplie presque, enfin, il est très mal, et il ne supplie pas, mais je sens qu'il est très mal, parce qu'il a raté le coche. Et j'appelle la compagnie et je dis, vous êtes sûr de ne pas avoir une place? Il me dit non, à moins de remplacer une hôtesse. Je dis, est-ce que c'est possible? Ah, il me dit oui, c'est toujours possible, mais il faudra qu'il fasse le service à bord. Et donc, je l'appelle, je lui dis, OK, mais tu t'assieds sur le strapontin de l'hôtesse et tu fais le service à bord. En fait, il n'a pas eu à faire le service.
Tout le monde fait ça,
L'avion, j'ai dû louer des vannes dans les deux aéroports de Montréal, puisqu'il ne pouvait pas atterrir l'avion directement à New York. Il est passé par
l'Islande.
Reykjavik, par l'Islande, où il y a passé une nuit au cours de laquelle on a essayé de le voler, cet avion, c'est-à-dire
Ah ouais.
qu'une équipe de France 2, un rédacteur en chef de France 2, a essayé de le piquer avec son équipe.
Pour vous, le piqué,
J'étais
le premier
furieux
piqué. On
quand
donne
j'ai
pas
appris
de nom,
ça.
hein.
Non, et puis ensuite l'avion a décollé, est arrivé à Montréal, et de Montréal, dans les vans que j'avais loués, a conduit donc toute l'équipe, des gens de toute la rédaction de Radio France et puis des autres rédactions
À New
à
York.
New York, enfin en tout cas
À
aux
Lyon.
États-Unis, à l'aéroport, ouais. Voilà. Et
Ouais.
de là, moi j'ai pris une voiture, et comme j'avais une carte de presse américaine, j'étais rentré depuis 8 mois de Washington. Quand on est arrivé dans la Grande Pomme, évidemment, il y avait un peu de police et un peu de barrière.
Ouais.
J'ai juste eu, parce que franchement, on roulait très vite. On était très en retard. Ça faisait déjà huit bons jours au
Ah
moins,
ouais.
au
Ah
moins
oui,
8 jours.
d'accord. Bah oui, bah oui, mais bon.
J'ai sorti par la fenêtre quand c'était le petit jour entre le chien et le loup. Quand le barrage est arrivé, j'ai sorti ma carte par la fenêtre. Le type m'a dit,
Passé. Magique.
magique. Voilà. Donc moi c'est tout. Ça c'était mon boulot. Après c'était difficile parce que jusqu'à épuisement il fallait nourrir toutes les radios. Mais c'était déjà difficile de prétendre qu'on découvrait quelque chose. Hein.
Oui, bien sûr. Ah
Au-delà,
oui.
c'est ça qui est difficile dans le journalisme, je trouve, que surtout quand on fait du news permanent, comme j'en ai fait pendant 30 ans, je ne sais pas combien, là, à France Info, c'est qu'il faut trouver des angles, des angles, des angles. Il faut nourrir la machine alors qu'on a l'impression que tout a été déjà dit. Surtout quand on arrive sur un lieu 8 jours après l'événement, qu'on a couvert sans y être vraiment. Quand on arrive, on a envie de recommencer à raconter l'actu, mais ce n'est plus possible parce que les gens, ils le
Bah
savent
oui.
déjà.
Bah oui,
Donc,
bien sûr.
il faut avoir beaucoup de talent et d'imagination. Il faut
Cela dit,
arriver.
avant leur arrivée aux États-Unis, avant l'avion, donc j'avais loué, en voyant Jean-Marie Cavada, qui était PDG de Radio France, qui était dans l'encadrement de la porte de mon bureau, quand j'avais le gars du Bourget au téléphone, qui me dit le prix de l'avion, je lève la tête, je dis le prix, je vois Cavada, je vois sa glotte, qui fait ça, il avale sa salive, et il fait un petit comme ça, de la tête, et je dis, c'est bon, ça marche, on le prend.
Tu
Et
te souviens
au
du prix?
départ, j'avais deux. Non. Je crois que. Non, je ne m'en souviens pas.
Ah, c'est dommage.
J'ai une bonne idée, mais je risque de dire une bêtise. Au départ, j'en avais loué deux, et puis finalement, on en a gardé un. Mais avant, dans les 8 jours pendant lesquels on ne pouvait pas survoler l'Atlantique Nord, j'avais une ancienne étudiante qui habitait Syracuse, donc assez loin de New York, mais elle s'est rapprochée de là, Paola Saldi. Il y avait Alexandra Acoun qui était pigiste aussi, c'est-à-dire qu'on a travaillé avec une armée de pigistes, en fait, qu'il a fallu trouver à droite et à gauche pour pouvoir assurer les choses
Sans
avant
y
qu'on
être.
arrive, quoi.
Ouais,
Mais
sans y
c'est pas
être.
ça.
Alors, c'est pas tellement la tristesse, moi, qui m'a accablé à ce moment-là.
Submergé, oui.
Ce qui m'a frappé, c'est la résilience américaine.
Ouais.
Et là, c'est resté parce que des catastrophes, j'ai découvert un monde qui était aussi un monde.
Aux Philippines, j'ai pensé à toi
Aux
cette
Philippines,
semaine.
ou en Haïti. Là, j'ai vu pour la première fois et la seule fois de ma vie une organisation quasi mondiale de secours et c'est ça qu'on a et c'est ça qu'on a couvert finalement.
On a raconté.
Voilà. Et donc, si tu veux, les 1 000 morceaux revenaient. Il y avait quelque chose qui se passait. Il y avait une empathie et il y avait un secours, un vrai secours, une chose. Il y a que là que j'ai vu ça. Voilà. Et puis après, ça c'est la fin, et j'arrête avec cet épisode-là parce que ça m'a quand même occupé assez longtemps et que j'avais vraiment une bonne communication avec les Américains. Et je suis monté sur leur camion de pompier à fond sur la 5e avenue pour aller vers Ground Zero. J'ai défilé avec la police habillée en Écossais sur Brooklyn Bridge. J'ai fait des trucs comme ça qui me sont restés. Mais ce qui m'a le plus intéressé, c'était 5 ans après, le procès d'Alexandria avec ce qu'on a appelé faussement le 20e pirate de l'air. Il était français, d'origine marocaine, c'était Zakaria Moussaoui. Oui. Et j'ai vraiment suivi avec attention ce procès parce que c'est le seul procès à ce jour civil contre un pseudo-pirate de l'air qui s'est terminé non pas par une peine de mort, alors que tout le monde voulait sa tête. Mais par une peine de prison à vie. C'était la juge du tribunal qui avait décidé. Il n'y aura pas peine de mort parce que vous, le gouvernement américain, ne voulez pas produire les témoins militaires qui pourraient m'apporter des gens de Guantanamo, etc., etc. Et donc, ils avaient décidé, non, il n'y aura pas. Puis, à la dernière minute, si, il y a peine de mort. Donc, il y avait une sorte de suspense. Il y avait un avocat français, qui s'appelait François Roux, qui était là, mais les plaidoiries étaient faites par des avocats new-yorkais.
Oui.
C'est un peu long, mon histoire, mais ça m'a plu, parce qu'à la fin, j'ai entendu un Américain juif new-yorkais dire, à côté des tours jumelles, « The little church that stood ». Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Il voulait dire simplement, écoutez, si vous faites œil pour œil, dent pour dent, vous allez faire de ce type un martyr, et là, vous aurez tout faux. Et donc, écoutez plutôt la justice fédérale, etc. Envoyez-le, en punissant vraiment, toute sa vie en prison. Il y est.
Oui, ben oui, c'est un point de vue. Bon, ben, effectivement, ça c'est pas une expérience banale, même si effectivement il y a eu ce décalage de quelques jours entre l'événement et le reportage terrain. Bon, moi je retiens surtout qu'Alain a loupé une carrière d'hôtesse de l'air. Hein.
c'est le chat qui miaule.
Bonjour, je présente Lulu, le chat pékin.
Ah, mais les chats, ils sont très cabots, ils aiment bien passer à la caméra. Hein.
Ni hao,
voilà.
Meio, meio.
Bon, Philippe, c'est toi qui nous présente le prochain disque qui est Bonnie Tyler.
Ah oui, parce que et ça c'est l'image ne va pas sans le son. Donc là, je t'ai envoyé une photo du Midem 79 sur le stand de Radio Andorre.
Elle va passer en incrustation ici.
Voilà. Et donc sans le son, on ne peut pas comprendre cette photo. Pourquoi je pointe du doigt Bonnie Tyler? C'est parce qu'elle a trois quarts d'heure de retard et qu'on attend à Radio Andorre la connexion. On l'attend depuis trois quarts d'heure.
Ah oui.
Et donc, elle est pressée. C'est déjà une star à cause du titre qu'on va entendre. Mais elle fait un peu sa diva. Donc, je lui dis, maintenant, tu restes assise, sage là, parce que Tibola va te parler. C'est un peu ça que j'ai fait. Je le regrette aujourd'hui, parce que ça se fait vraiment. Ça veut dire vraiment, ce type n'est pas un type d'image, moi. Je suis un type de radio, parce que si j'avais su qu'on me photographiait, j'aurais jamais fait ça. Et donc, si je ne vous raconte pas cette histoire, vous ne comprenez pas pourquoi je fais ce
D'accord, c'est l'explication. C'est la légende que je mettrai sous la photo, alors.
Incorrect. Et donc, je dirais... le titre de la chanson c'est It's a heartache, qui veut dire j'ai un chagrin d'amour. Ouais, moi je dirais avec elle c'était a headache.
Yeah. Une prise de tête. Bon, eh ben, on la passe et on l'écoute.
It's a heartache. Nothing but a heartache. Hits you when it's too late. Hits you when you're down. It's a fool's game. Nothing but a fool's game. Standing in the cold rain. Feeling like a clown. Down. It ain't right with love to share.
Bon, c'était Bonnie Tyler. Catherine, je crois que tu es la seule à avoir vécu les derniers moments de Radio Andorre. Enfin, tu es restée vraiment jusqu'en 80, jusqu'à la toute fin.
Oui, tout à fait.
Comment tu as vécu ça, toi, à Toulouse ?
On se battait comme des chiffonniers parce que Gilles faisait tout pour sauver la radio. Ouais. Donc, il démarchait tous les politiques locaux, les Andorrans, toutes les personnes qui pouvaient nous aider, l'archevêque d'Urgel, tout ça. Et je me souviens qu'on distribuait des tracts. On était toujours dans ce fameux palais des congrès, salle d'exposition, comment ça s'appelait le palais des expositions à Toulouse.
Ouais, c'est ça.
Et il y avait toutes les forces politiques et économiques du Sud-Ouest. Donc moi, journaliste, je distribuais les tracts pour essayer de sauver notre
radio. Sauver la radio, bah ouais.
Ah ouais, non, on s'est battu comme des lions jusqu'au bout. Et à tel point que Gilles Marquet est allé rencontrer l'autre coprince d'Andorre, qui était François Mitterrand.
C'est ça.
Qui venait juste d'être à l'Élysée.
Oui.
Et c'est ainsi que ses conseillers lui ont dit si c'est impossible de sauver Radio Andorre. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est réintégrer vos journalistes dans les nouvelles radios locales de Radio France.
Du service
public.
Et
c'est comme ça que nous sommes entrés dans le service public grâce à Gilles Marquet.
Ouais. Moi, j'avais donné un peu dans le conflit d'intérêts parce que il m'avait demandé amicalement de faire un grand papier avec la complicité de la Dépêche du Midi,
oui.
Qui allait être publié dans la Dépêche, je crois que c'est en page 2, 3, quelque chose comme ça, un grand papier sur Radio Andorre et revenant sur l'histoire de Radio Andorre, sur les relations un peu difficiles parfois avec le politique.
Ouais.
Et il me semble qu'il a été publié ce papier, on doit pouvoir.
Eh bien, je crois que je dois l'avoir en archive.
Mmh. Ah,
oui. Okay, ouais,
tu sais que sur le site Gallica, on trouve beaucoup de choses intéressantes, mais là, c'est peut-être pas sur Gallica que j'ai dû le trouver. Oui, j'étais aux archives de la Dépêche, en fait, il y a une dizaine d'années, et j'ai retrouvé ces archives-là de cette période où il y a eu beaucoup d'articles, évidemment, sur la disparition de la radio, quoi. Mmh. Oui, il y avait même eu une pétition qui avait été lancée par le journal.
Oui.
Signé par des artistes.
Oui, bien sûr. Moi, j'ai fait signer plein de gens. Je me souviens très bien de ça. Ouais.
Et après, Gilles, t'as proposé de remplacer Léo Palacio, qui était le correspondant du Monde à Toulouse.
Oui, oui, c'est ça.
Il prenait sa retraite.
Pour le journal Le Monde, alors.
Oui, c'est ça. Avant de pouvoir intégrer les radios locales, il m'avait trouvé cette pige formidable.
Super.
Je suis devenue correspondant du Monde pour Midi-Pyrénées pendant
deux ans.
Ouais. 2 ans, ça a duré. Ouais. Parce que j'étais quand même déjà, j'étais encore à Radio Andorre et je faisais les deux.
D'accord, ok.
J'étais à Radio Andorre et j'avais remplacé Léo Palacio au Monde. Et ça, j'adorais, j'étais très fière.
Mais c'était pas incompatible. Il y avait beaucoup, beaucoup de journalistes. Christian Guillard, qu'on avait eu à Nouvel An, nous avait dit aussi, qu'il était à la fois correspondant pour des journaux papier et puis au micro de la radio, quoi. Hein. Donc c'était pas incompatible.
Et c'est grâce à Gilles que je suis devenue correspondant du Monde.
C'est
lui qui avait proposé
à
Léo Palacio de donner mon nom. Parce qu'à l'époque, il y avait quand même des tas de journalistes de la Dépêche qui rêvaient de ça.
Ben oui.
Et Léo Palacio, ça l'agaçait de voir que des confrères qui n'avaient pas forcément été très sympas avec lui, j'imagine, je ne sais pas. Enfin, bref, il n'avait pas de copains à la Dépêche du Midi, Léo, parce qu'il avait donc donné mon nom justement pour que ce soit quelqu'un de totalement nouveau et qui n'avait rien à voir avec la Dépêche du Midi. Et je pense que ça avait bien plu au Monde aussi, que ce soit quelqu'un d'indépendant qui n'appartienne pas à un journal quotidien, pour être correspondant.
Oui, la famille Baillet.
Famille Baillet, voilà. Ouais. Ça a été ma chance, et j'ai adoré faire ça, c'était formidable.
Ouais. Donc, en fait, vous avez fait votre carrière tous les trois sur le service public, quoi. Si on résume,
ensuite.
Qu'on a adoré.
Le service public est rien de plus important au Monde que le service public. Quand on voit ce qui se passe en ce moment avec la presse Bolloré, les intérêts que les gens de droite ont pour museler la presse, ou du moins faire une... Là, je m'engage peut-être.
C'est de la politique, c'est pas de la politique.
On va en parler.
Le service public, c'est la liberté d'expression, la vraie.
Ouais.
Attention.
On va en parler juste. On va en parler juste après le prochain disque.
Ah bon.
Comme ça, on aura le temps de rentrer un peu plus en détail sur ce sujet, parce que j'aimerais bien avoir effectivement un petit peu votre avis sur toutes ces évolutions. Alors, le prochain disque, c'est un disque de Jacques Brel qui a été choisi par Alain.
Non, c'est moi qui l'ai choisi.
Ouais, c'est toi.
Moi qui l'ai choisi pour une raison très précise. C'est que ce disque est arrivé en 77.
Ouais.
C'était l'époque où Jacques Brel ne chantait plus. puisqu'il était parti aux Marquises.
Il était malade déjà à l'époque. Hein.
Il avait fait son dernier concert à l'Olympia en disant « je m'en vais ». Il était allé aux Marquises, il avait son cancer.
C'est ça.
Et il a fait ce disque merveilleux. Et c'était un tel événement que la maison de disques avait livré le disque dans toutes les radios de France, il n'y en avait pas encore des tas, hein, 77, dans une mallette cadenassée, et toutes les radios devaient le diffuser au même moment, à la même heure, à la même seconde. Donc il y avait un huissier qui nous avait apporté la mallette, qui avait ouvert le cadenas, qui nous avait fait découvrir le disque, et nous avons diffusé de Toulouse, du studio de la rue Bayard, Les Marquises.
Il parle de la mort comme tu parles d'un fruit. Il regarde la mer comme tu regardes un puits. Les femmes sont lascives au soleil redouté. Et s'il n'y a pas d'hiver, cela n'est pas l'été. La pluie est traversière, elle bat de grain en grain, quelques vieux chevaux blancs qui fredonnent Gauguin. Et par manque de bris, le temps s'immobilise aux Marquises. Du soir montent des feux et des points de silence qui vont s'élargissant et la lune s'avance. Et la mer se déchire, infiniment brisée, par des rochers qui prirent des prénoms affolés. Et puis, plus loin des chiens, des chants de repentance, et quelques pas de deux, et quelques pas de danse. Et la nuit est soumise, et l'Alysée se brise aux Marquises. Le rire est dans le cœur, le mot dans le regard, le cœur est voyageur, l'avenir est au hasard. Il passe des cocotiers qui écrivent des chants d'amour, que les sœurs d'alentour ignorent d'ignorer. Les pirogues s'en viennent, et mes souvenirs deviennent ce que les vieux en font. Veux-tu que je te dise, gémir n'est pas de mise aux Marquises.
Voilà, donc c'était Jacques Brel avec Les Marquises. Voilà, je crois que c'était son dernier disque, en fait, si je ne me trompe pas.
Hein, voilà.
Alors, moi, j'aurais bien aimé avoir votre avis un petit peu. Donc, vous avez fait toute votre carrière dans le service public, et puis vous m'avez dit tout à l'heure que c'était pour vous une opportunité magnifique d'avoir fait cette carrière tout au long dans le service public. Moi, j'aimerais avoir votre avis un petit peu sur comment vous voyez l'évolution aujourd'hui comment dire, de la presse audiovisuelle. Alors, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une émergence à la fois des réseaux sociaux, des chaînes YouTube où il y a des influenceurs qui ont des millions de followers, où le fake news, on ne sait plus trop ce qui est vrai, ce qui est faux. On a une évolution aussi, une méfiance du public, c'est les sondages qui le disent, par rapport à la presse dite officielle, c'est-à-dire les grands journaux, les grands quotidiens, les chaînes de radio officielles, les chaînes de radio privées ou publiques, la télévision. Et comment vous voyez-vous cette évolution? Est-ce que vous êtes optimiste, pessimiste? Est-ce que le service public est quelque chose qui peut nous protéger de tout ça? J'aimerais bien avoir votre avis les uns les autres sur ce sujet.
Il commence. Moi, je veux bien dire deux mots sur la radio de service public, si tu permets.
Oui,
parce que la radio, c'est un média à part entière. Et ce que je remarque, c'est que quand on mélange deux moyens de production très différents, comme sont la radio et la télévision, on produit quelque chose de
différent
que mon cerveau n'assimile pas bien, parce que moi, le son, c'est un hémisphère et l'image, c'est un autre hémisphère de mon cerveau. Et donc, si tu veux, j'ai encore jamais bien réussi à m'imaginer ce que serait que la radio-télévision hybridée. Donc, c'est pour ça que depuis le début, je m'interroge quand on dit BBC à la française. Et donc, je connais très bien la BBC à l'anglaise. Et je remarque que tout le monde, radio, télé, réseaux sociaux, Internet, nage dans son couloir. Et que, deuxième point extrêmement important pour le service public, que les Britanniques tiennent absolument à payer la redevance, parce que quand tu payes pour un service qu'on te rend, un service public qu'on te rend, tu as droit à la parole. Et donc, si tu veux engueuler celui qui dit une connerie, tu peux même te tromper en engueulant, mais tu peux le faire et tu as l'impression, une impression d'appartenance. C'est-à-dire que ce service public, il est en partie à toi. Tu es un peu co-propriétaire ou co-locataire ou ce que tu voudras, mais tu as un droit dessus.
Il existe.
Et tu exiges que tu en aies pour ton argent. Voilà. Donc moi, c'est ça la BBC à l'anglaise, et je souhaite donc un Radio France à la française, c'est-à-dire qui ressemble à la BBC à l'anglaise. C'est-à-dire, je veux bien qu'on fasse du holding, etc., etc., mais je veux que tout le monde nage dans son couloir. Moi, c'est ça.
Mais qu'est-ce que tu réponds aux gens qu'on entend très souvent dire que le service public est quand même partisan également, plutôt de gauche, enfin je parle de France Inter, qui est assimilé plutôt à une radio de gauche. Qu'est-ce que tu réponds à ça?
Je finis, après je m'efface, mais sur 40 ans, ou 40, oui c'est ça,
oui, une quarantaine d'années, on a, 40 ans, on a eu de la gauche, de la droite, et on nous a toujours dit qu'on ne savait pas travailler.
Sur 40 ans, oui, des affluences, bien sûr, il y en a. Des gouvernements qui se succèdent, ça c'est certain, de la trop grande proximité entre journalistes et politiques, oui, il y en a, sur les 40 ans, etc. Donc, non, aujourd'hui, beaucoup de fumée, beaucoup d'accusations, etc., mais bon, au moins ça n'a pas changé, et il y a une école de service public, c'est-à-dire que justement, quand on est trop proche d'un politique, eh bien, on se déporte, comme on dit. C'est-à-dire la déontologie, la règle non dite peut-être du métier, c'est ça. Et donc le service public, c'est ça. C'est je travaille pour le public, voilà. Et je travaille pas pour un gouvernement, et je travaille pas pour un. Si, moi je suis très patriote, je me sens bien français. Je suis content d'essayer d'écrire ou de bien parler français. Et c'est tout. Mais moi, je ne travaille pas pour un gouvernement, ni pour un député, ni pour. Voilà, parce que de toute façon, je n'ai pas de carte politique non plus. Et puis, Marie-Pierre n'est pas employée du gouvernement.
C'est ça. Mais,
d'accord.
Marie-Pierre.
Ouais.
Moi,
Bon, Alain.
j'ai dirigé quand même pendant pas mal d'années, j'ai co-dirigé pendant pas mal d'années la rédaction, j'étais secrétaire
Oui, bien
général, je
sûr.
m'occupais pas mal des journalistes, il y en avait plus de 100,
Mmh.
hein, au moment ça montait à 103. Je suis absolument incapable de dire pour la plupart d'entre eux, certains oui, hein, je me souviens de Françoise Degois qui sautait dès qu'elle prononçait le nom de Ségolène Royal, elle a fini par quitter Radio France et travailler aux côtés de Ségolène Royal.
Mais il y en a pas
Finalement, les
beaucoup.
gens que je connais, des gens pour qui on était la semaine dernière encore, on dînait avec Marie-Ève Malouine, je l'ai eue comme journaliste quand j'ai dirigé le service des reportages de France Inter. Elle a ensuite travaillé au service politique de France Inter pendant des années, puis elle a intégré France Info, où elle a dirigé le service politique de France Info. Marie-Ève Malouine, beaucoup de gens pouvaient l'accuser d'être de gauche parce qu'elle travaillait à Radio France. Marie-Ève Malouine, elle a fait la campagne de Pécresse, elle a travaillé aux côtés d'Annie Genevard, l'actuelle ministre de l'Agriculture, qui a été vice-présidente des Républicains. Jean-François Killy, qui était un copain, qui est un mec, lui, il a quitté Radio France après avoir été accusé d'avoir aidé Jordan Bardella à écrire son livre. Ballard, qui était présentateur à France Info, sacré gauchiste, Ballard, il est député et porte-parole du Rassemblement national. Moi, je ne savais pas à ce moment-là pour qui ces gens-là votaient.
Oui, je comprends.
Je ne le savais pas. Et si, finalement, c'est la liberté, à la fois de ton, sur le fond et sur la forme, des journalistes, des rédactions de Radio France, qui font qu'on les traite de gauchistes, bah, ça prouve peut-être que la liberté est plutôt à gauche et plus à gauche qu'à droite, j'en sais rien. Je pose juste la question. Il se trouve que jusqu'à 81, on avait un ministre de l'Information ou de la Communication qui
Oui,
nous annonçait les nouveaux programmes de France Inter à
bien
l'antenne,
sûr,
etc. Comme il
c'était
le faisait pour
perfide.
la télé. Puis en 81, Mitterrand, qui n'aimait pourtant pas les journalistes, il a balayé tout ça et tout en serrant les dents, il nous a laissé travailler, il a laissé les gens travailler. Donc évidemment, on en garde ces traces-là. Mais lorsque Dominique Strauss-Kahn arrive sur l'antenne de France Inter un matin, et que d'un seul coup, l'humoriste de service, Stéphane Guillon, se met
Me
à faire
souviens.
sonner des sirènes
J'étais à
pour
l'écoute le
dire
matin
attention,
là.
alerte à toutes les voitures, les jeunes
911.
filles partez à toute vitesse, etc., parce que
Avec les
il
bruits
y a
des
une sirène dans la
sirènes.
place, il était quand même, à ce moment-là, c'était un homme de gauche et
Ouais.
pas de second plan.
Bien sûr, ouais. Bah
Donc
non,
ça
il
veut
était
dire que.
candidat potentiel, hein, oui. Ah
Exactement.
oui.
Donc, ça voulait dire que Radio France, on est capable de dire les choses. Et moi, je pense que le service public, d'une certaine manière, Gilles Marquet, il était fait pour le service public après Radio Andorre.
Ouais.
Pourquoi? Parce qu'il nous a laissé à Radio France, et Philippe pourra en parler longuement, il nous a laissé travailler sur des affaires locales,
Oui.
comme des affaires de faux devis, de fausses factures,
Le casino,
les casinos, qui
Alors
impliquaient
que
le
c'était
maire.
Jacques Médecin qui était maire de Nice.
Qui
Oui, c'est
impliquait le
ça.
député maire de Nice, qui a fini ses jours en prison, quand même.
Ouais.
Et ça, il nous laissait faire ça, en sachant très bien que ça nous condamnait quasiment l'accès au député maire de Nice, qui ne
Oui.
voulait pas venir dans nos studios,
Oui, vous boycottez.
et qui en plus arrosait toute la Côte d'Azur avec sa propre radio,
Radio
qui était financée par les amendes qu'on nous infligeait, les amendes pour le stationnement. C'est tombé. Franchement.
Non, mais il y a quand même une bonne mesure d'audience à ça. Même si 500 000 personnes arrêtent d'écouter la radio chaque année, c'est à peu près ça, enfin depuis quelques années, de très loin, c'est la radio, les radios du service public qui sont devant en termes d'audience et en termes de fiabilité.
Bien sûr.
Voilà. Moi, j'en ai assez dit avec ça. Ce que je veux éviter et ce que je veux partager, c'est l'idée que la radio est un moyen de production très spécifique qui ne peut pas être hybridé avec la
Avec
façon
d'autres
dont
médias.
on fait la télévision.
D'accord. Bon, désolé, ce soir on est filmé, hein?
Mais avec
Mais
plaisir.
on fait avant tout de la radio quand même là, hein? On s'en fout un peu des
Vous
médias,
savez, maintenant il y a
hein?
des caméras dans tous les studios de radio, hein?
Il y a même au début, quand on a commencé à mettre des caméras dans les studios, lorsqu'Alain Bédoué présentait le téléphone sonne, il y a un homme politique qui a passé la soirée, pendant toute l'émission, à regarder une caméra qui n'était pas encore en fonctionnement.
Ouais. Bon, on va être obligé de se quitter parce que, bon, on n'a pas vraiment de contraintes horaires, mais là, on va pas y passer quand même toute la nuit. Bon, Catherine, tu avais peut-être quelque chose à rajouter sur le sujet qu'on vient d'évoquer?
Ah ben, j'ai commencé en vous expliquant qu'il fallait un service public pour lutter contre les influences des milliardaires catholiques de droite.
Oui.
Donc, je pense que ma parole était claire là-dessus,
Très
sur la
bien.
sauvegarde de la liberté d'expression.
Voilà. Bon, bah écoutez, il me reste à vous remercier tous les trois d'avoir participé à cette émission, d'avoir évoqué vos souvenirs, d'avoir évoqué l'actualité passée, puis aussi on a abordé des sujets d'aujourd'hui, hein, comme le devenir de la radio. Donc c'était très intéressant. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous entendre les uns les autres. Je vous souhaite maintenant, continuer une bonne retraite. Alors, j'ai compris que Catherine et Alain, c'était festif et joyeux, la retraite.
Oui, ça
Je
l'est.
crois que
Ce
Philippe est
soir, ça
en
va
retraite
continuer avec Philippe
depuis très peu de temps, hein.
et Marie-Pierre.
Donc, on lui souhaite une bonne retraite aussi, hein, qu'elle se sente
Oui,
active. Voilà.
oui. Les uns vont vers le sud, mais il y a quand même dans cette émission l'appel de la mer, si tu écoutes toutes les chansons qu'on a passées.
Ouais, c'est
Donc,
vrai.
il y a ceux qui vont vers le sud et il y a ceux qui vont vers le nord. Moi, c'est plutôt vers la Bretagne,
Oui.
mais même si je suis le dernier à m'être baigné cette année, le 19 octobre, dans la Méditerranée, à 7. Voilà.
Ah oui, ouais.
Voilà. Parce que la température était de 19 degrés.
Dans la mer.
Voilà. Donc, on aime la
Ah oui.
mer tous. On
Je suis
aime
en
où vont les
Normandie, c'est
bateaux.
difficile là en ce moment de se
Quand
baigner.
reviendront-ils? Où vont les bateaux? Quand reviendront-ils?
Eh ben
Merci
voilà.
Jean-Marc, en tout cas.
Merci beaucoup de nous avoir réunis.
C'est moi qui vous
Merci.
remercie surtout. Je vous souhaite une bonne soirée et puis bon, qui dit peut-être dans quelques années, on fera une autre émission. Hein? Allons savoir.
D'ici
Hein?
là, on essaiera de rester vivant. Et on est bien parti pour
Et les uns
relancer
les autres.
Radio Andorre. Au
Bon, bonne soirée à vous, merci beaucoup. Et puis,
revoir.
Au revoir.
au revoir.
Causerie en air. Avec Catherine Laurence, Philippe Reltien, Alain Le Bouguet et Jean-Marc Prince.